Sixième lettre à sa mère. À l'abbaye du Mont-Cassin, le 21 janvier 1850. Je vous écris cette lettre, chère mère, du plus beau lieu du monde, du haut d'une des montagnes les plus élevées de la chaîne des Apennins, du célèbre monastère des Bénédictins du Mont-Cassin, où nous recevons depuis quelques jours la plus aimable et la plus généreuse hospitalité. De tous les épisodes de notre voyage, je ne sais si aucun autre aura eu pour nous plus de charme. Figurez-vous trouver, au milieu d'un désert, au milieu des nuages et au pied des neiges éternelles, une réunion d'hommes aimables, instruits, libéraux et persécutés pour leur libéralisme et l'élévation de leurs sentiments religieux par l'abominable tyran qui règne en ce pays. Il n'en fallait pas tant pour nous inspirer les uns pour les autres une bien profonde sympathie. L'abbaye du Mont-Cassin fut fondée, il y a 1300 ans, par saint Benoît lui-même. Depuis ce temps, elle est restée un centre d'études et de civilisation. Là s'est formée, durant des siècles, cette précieuse collection de manuscrits que nous venions explorer et qui renferme de si inappréciables richesses. Aujourd'hui encore, les religieux du Mont-Cassin sont les hommes les plus instruits et les plus éclairés de l'Italie. Le père Tosti, maintenant exilé par le roi de Naples, est un des plus grands écrivains de l'Italie. Plusieurs autres hommes de talent font de cette abbaye un centre de lumière et de science. Il est impossible d'imaginer, chère mère, une situation plus pittoresque que celle de ce beau monastère. Le Mont-Cassin est le dernier contrefort d'une des ramifications les plus élevées de l'Apennin. On y monte durant 1 heure et demie de chemin par une longue rampe taillée dans le roc, au milieu des oliviers et des plantes indigènes qui garnissent les flancs de la montagne. Les bâtiments immenses du monastère s'élèvent sur le plateau supérieur. C'est une vraie ville, chère mère, un labyrinthe où l'on se perd avec des portiques, des cloîtres et une église dont je n'en ai pas vu depuis Rome. De là, la vue incomparable. Au pied du mont se déroule une plaine admirable, arrosée par le Liris et le Garigliano, qui se divisent en 1000 canaux pour mieux arroser la contrée. La ville de San Germano disparaît derrière les rocs qui forment le flanc de la montagne. Elle se serre au pied comme à son ombre. Au nord, la vue est bornée par des sommets plus élevés, couverts de sapins et de neige. Au sud et à l'est, c'est la grande chaîne des Apennins, qui est en ce moment éblouissante de blancheur par la neige qui la couvre, tandis que dans les vallées, il fait un temps de printemps. Au couchant, ce sont d'autres montagnes qui, en se prolongeant, vont former le promontoire de Gaète. Tout cela, chère mère, encadre l'horizon d'une manière admirable. Rien ne peut donner une idée de la variété des contours de ces montagnes. Le matin, toutes les vallées environnantes paraissent remplies de vapeurs. On dirait une mer. Les régions inférieures sont plongées dans l'obscurité pendant que nous jouissons sur le mont du plus beau soleil. Vers 10 heures, le voile se déchire. On voit apparaître de larges pans de la campagne. Les arbres et les maisons montrent leurs cimes. Quelques vapeurs flottent encore çà et là, suspendues au-dessus de la vallée. Quand le temps est nébuleux, nous sommes ici dans les nuages. C'est un spectacle admirable de les voir s'avancer, étendre leurs grands bras, embrasser le monastère et nous plonger pour un temps dans l'obscurité. J'éprouve un extrême plaisir à voir cet étrange phénomène. Quand je les vois s'approcher, je mets une marque à mon manuscrit et je m'approche de la fenêtre de la bibliothèque pour les regarder venir. Nous faisons avec les moines des promenades délicieuses sur la montagne, autour du monastère. Ils sont pour nous d'une amabilité charmante. Nous mangeons avec eux, le soir ils viennent causer et prendre le thé avec nous, ils ne nous quittent pas un instant par courtoisie et viennent à la bibliothèque nous distraire de nos travaux. L'arrivée d'un Français est ici une grande fête. Ce Villaroi de Naples ne leur laisse venir ni livres, ni journaux, ni lettres de la France. Jugez avec quelle avidité ils entendent ceux qui leur parlent de ce beau pays où sont toutes leurs sympathies. Ils cherchent à nous faire rester le plus longtemps possible, et si nous ne consultions que notre goût, chère mère, nous resterions en effet bien longtemps. Ah, qu'il fait beau vivre ici, entre le ciel et la terre, dans la paix, la solitude et la pensée. J'ai presque eu la tentation d'y rester. J'ai vu le pape, chère mère. Nous sommes, on ne peut plus, satisfaits de notre audience. Pie IX est vraiment une des plus belles et des plus douces natures. Il est impossible de le voir sans l'aimer. Sa physionomie respire un calme et une bonté charmante. Sa parole est affable et douce. Nous avons causé avec lui à peu près 1 demi-heure dans son cabinet particulier. Le cérémonial est qu'on lui baise la main en entrant. en guise de salut. Il se tient toujours debout, et ceux qu'il reçoit debout aussi. Son costume est entièrement blanc, d'une grande simplicité. La conversation de Pie-IX est vive, spirituelle et enjouée. Il parle beaucoup, comme en général les Italiens. Il aime à causer sur toutes sortes de sujets, et aime mêler à sa conversation quelques mots agréables. Il nous a beaucoup parlé de son désir de venir à Rome et des obstacles qui l'en empêchent. Je n'ai rien vu de plus touchant et de plus vénérable que ce beau vieillard, rendu plus aimable encore par la majesté du malheur. Je lui ai dit que j'avais une bonne mère qui aimerait bien avoir quelque chose de sa main, et il a tiré de son secrétaire un beau chapelet en améthyste d'une seule dizaine qu'il a béni et m'a donné pour vous. « Dites-lui, a-t-il ajouté, que je lui envoie avec ce chapelet ma bénédiction, à condition qu'elle le dise souvent pour moi. » Nous lui avions apporté plusieurs autres objets que nous lui avons fait bénir et que je vous donnerai pour que vous en fassiez cadeau à qui vous voudrez. Vraiment, j'aime beaucoup Pie-IX et je suis persuadé que la bénédiction de cet excellent homme ne peut que porter bonheur. Nous partirons pour Rome dans quelques jours. Comme le service des postes est très irrégulier dans ce pays perdu, j'emporterai cette lettre avec moi et je la jetterai à la poste dès mon arrivée. M. Lacocchi est de retour à Rome. Ainsi, il faut recommencer à adresser les lettres par lui. Il saura toujours où me les faire parvenir. Adieu, excellente mère, combien je vous aime, combien je pense à vous. Qu'un jour, nous aimerons à causer de tout ceci. Votre fils tout amour, Ernest Renan. Rome, 26 janvier. Nous voilà de retour à Rome, chère mère. Après un voyage bien accidenté, à pied, à cheval, à âne, en voiture, en char à banc. Il faut faire avec ce qu'on trouve en ce pays. Nous partons dans 3 ou 4 jours pour Florence. On m'apprend que la lettre que j'avais envoyée de Naples à Rome pour Fanny, par occasion, n'est pas partie. Quelle négligence ! Elle partira par le même courrier que celle-ci, et arrivera de même. Je vous écrirai de Florence, adressée toujours à Rome, à Lacocchi.